7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr, comme chaque mois. Et plus que jamais, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité, la triste actualité en ce jour de deuil national en France. Et plus que jamais, les tchatcheuses font le job de celles et ceux qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir l'ouvrir dans leur pays. Autour de la table aujourd'hui, ils sont indiennes, chiliennes, portugaises. Bonjour Veiju Naravan.
Bonjour.
Ex-correspondante pour le quotidien Zi Hindou, vous collaborez aujourd'hui à différents médias, dont la BBC. Vous avez beaucoup été sur les télévisions indiennes hier, toute la journée. Paola Martinez, vous êtes dans le studio de 7 milliards de voisins également, journaliste chilienne. Bonjour Paola.
Bonjour Emmanuel.
Vous suivez avec assiduité, vous, tout ce qui se passe sur le continent latino-américain. Rien ne vous échappe en général, même si vous vivez en France. Ana Navarro-Pedro, bonjour.
Bonjour.
L'européenne. Journaliste portugaise, correspondante pour l'hebdomadaire Visão, hebdomadaire portugais. Depuis hier, évidemment, on entend sur l'antenne de RFI des journalistes du monde entier, des libres penseurs, des politiques, s'exprimer d'une seule voix, mais avec leurs différences culturelles sur l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Vous avez évidemment toutes les trois des histoires différentes, pas toujours faciles dans vos pays respectifs. Et c'est avec ces mémoires-là aussi personnelles que vous réagissez aujourd'hui à l'actualité et en partie. Bien sûr, celle que je viens d'évoquer. Merci à vous toutes les trois d'être sur RFI. On peut dire tchatcheuse plus que jamais aujourd'hui.
Plus que jamais.
Ah, plus que jamais.
Et bien sûr, les voisines, si vous êtes une femme journaliste dans votre pays, vous pouvez nous appeler. Vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Tchatcheuse plus que jamais, Paola Martinez, Veiju Naravan, Ana Navarro-Pedro, nous sommes le jour d'après. Ana, journaliste portugaise, européenne, j'ai pensé forcément à votre passé, vous avez grandi les premières années de votre vie sous la dictature au Portugal. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé hier? 12 personnes ont perdu la vie.
Je suis vraiment physiquement malade, nous avons tous assisté, connu, couvert des événements terribles ou encore plus terribles. S'il peut y avoir un degré dans l'horreur, il y en a forcément. Mais apporter ça au cœur d'une ville en paix, à Paris, une ville paisible, sereine, où en règle générale on respecte les gens, la vie des autres, on parle, la vie des lumières, ça a une signification très très grande. Et puis le soir, à la place de la République à Paris, c'était très très digne.
Ouais. Et les gens étaient debout. Hier soir, c'est là que vous avez attrapé froid,
voilà.
Pour la bonne cause.
Et les gens étaient très dignes, les gens étaient debout et ils disaient, je n'ai pas peur pour ma sécurité, j'ai pas peur pour mon pays. Ouais. Donc, il faut être très prudent et très très vigilant dans les jours qui vont suivre. Mais je n'ai pas peur et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Paola Martinez.
Ouf, là c'était... aujourd'hui, d'habitude quand je viens à cette émission, je suis très très heureuse, contente.
Joyeuse.
Joyeuse. Mmh. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées en fait en moi hier. J'ai passé aussi la journée à parler au Chili, de raconter un peu ce que j'ai vécu. J'habite tout près en plus des lieux, près de la Bastille. Et donc j'ai senti une atmosphère assez... je racontais tout à l'heure une atmosphère qui m'a rappelé... Vous savez, les secondes tout de suite après entre le moment de terre au Chili, en fait, quand il y a une sorte de silence pesante qui s'installe. La vie continue, évidemment, parce que la vie parisienne, elle a continué. Mais il y avait une sorte d'apaisanteur qui j'ai senti très, très fort. Et donc, évidemment, ça, je pense qu'effectivement, moi, j'ai grandi aussi sous la dictature de Pinochet. Je suis née en 73, donc j'ai pas forcément, disons, vécu jeune des événements terrifiants ou comme des attentats qui a eu lieu beaucoup aussi à des périodes de la chilienne. Mais je pense que quelque part en moi, c'est ça qui m'a frappée, en fait, c'est que cette liberté qui a été complètement touchée hier au cœur de cette ville merveilleuse qu'on a tous adoptée, hein, parce qu'on a choisi de venir ici. Et donc, tout en compte, se sent un peu vulnérable, mais ce qui était très beau de voir hier, c'était justement cette population. J'étais très fière de participer Je suis pas française de nationalité, je me sens française de cœur en fait. Et j'ai vu ça hier à la télévision, à la radio, je l'ai senti en plus dans mon quartier, cette nation digne qui s'est levée et qui était debout avec des bougies et avec un stylo en disant stop, on comprend pas ce qui se passe, mais non, ça va pas, ils vont pas gagner quoi.
Veju Naravan, vous de votre côté en tant que journaliste indienne, vous avez été énormément sollicitée par les chaînes indiennes, hein, qui sont très nombreuses dans votre pays.
Oui, absolument. Et je voudrais dire deux choses ici. La première chose, c'est que j'ai cette dernière conversation que j'ai eue avec Charb.
Un des caricaturistes,
le patron de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo. On était ensemble dans une émission de télévision sur la chaîne Arte le 22 novembre. C'est pas, il y a pas si loin que ça. Et je lui avais posé la question sur les attentats ou les menaces qui pesaient sur le journal. Je lui avais demandé si est-ce que ça diminuait. Il m'avait dit pas du tout. Et j'avais dit est-ce que vous n'avez pas peur? Il m'a dit oui, tout le monde a peur. Mais personne m'a obligée de devenir caricaturiste ou journaliste. Je suis entrée avec les yeux ouverts. Je sais quels sont les risques que je cours, mais je ne peux pas faire les choses autrement. Il faut que je sois liée à ma profession, le pratiquer le plus honnêtement possible et avec le plus de courage et conviction que j'apporte à mon travail. Et l'autre chose qui m'a frappée énormément, c'était que une des chaînes de télévision sur lesquelles j'étais hier, ils ont décidé effectivement de montrer toutes les dessins de Charlie Hebdo, de très près, avec les gros plans, en disant que c'est notre position, on ne peut pas tuer les gens pour avoir pratiqué
c'est, c'est-à-dire
métier.
Qu'il y a des chaînes indiennes là qui jouent délibérément la provocation à l'encontre d'une communauté musulmane omniprésente en Inde, deuxième plus grande communauté musulmane au monde.
Voilà, parce que la liberté d'expression est absolument sacro-sainte.
Ça, c'est votre point de vue, ça prête à débat.
Ça prête à débat.
Alors justement, vous le savez, dans cette émission des Tchatchos, si vous êtes une femme journaliste, vous avez tout à fait la liberté de nous téléphoner et de nous donner votre point de vue. En particulier aujourd'hui, je vous rappelle le numéro de téléphone. C'est le 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui est en Guinée-Conakry. Bonjour Asmaou.
Bonjour Emmanuel.
Asmaou, on est ravis de vous accueillir chez les Tchatcheuses aujourd'hui. Vous êtes une jeune journaliste, hein, vous avez 24 ans et vous travaillez pour l'hebdomadaire satirique en Guinée-Conakry, le Lynx. Vous, comment vous réagissez de là où vous êtes à ce qui s'est passé hier à la rédaction de Charlie Hebdo?
D'abord, je suis consternée par ce massacre de nos confrères hier. Toute la presse guinéenne d'ailleurs, hier ça, on a été nombreux, les hommes de médias qui s'étaient rassemblés à l'ambassade de France pour marquer la solidarité de la presse guinéenne à celle française. C'est très douloureux que des journalistes caricaturistes qui n'ont que leur crayon pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des tares de la société meurent de cette manière.
Oui, oui, Asmaou, nous vous écoutons. Hein.
Alors, je pense que cet attentat qui s'est passé en France, et qu'il faut le souligner, est une république laïque qui met en jeu deux principes, voire deux valeurs, que sont la liberté d'expression et aussi à côté la liberté religieuse. La foi, dit-on, peut soulever une montagne, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut tuer celui qui ne voit pas votre religion de la même façon que vous, à mon avis.
Mais ça veut dire, Asmaou, que vous, justement, comment vous percevez votre position? Vous estimez que, parce que sur les réseaux sociaux, si je lis le message de Amadou, par exemple, qui dit « Si la liberté de la presse doit servir à caricaturer un prophète de Dieu, elle mériterait d'être étouffée, car il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité et des médias sans morale. » Ou encore Sekou, qui dit « La liberté d'expression n'est pas égale au libertinage d'expression. » Vous, quelle est votre position, Asmaou, là-dessus?
Oui, journaliste professionnel, on le prône. À mon avis, il faut savoir jusqu'où aller dans le traitement de certains dossiers, surtout sensibles et surtout lorsque ça touche à la foi, à la religion. C'est vrai que, comme on le dit, notre métier de journaliste n'est pas de faire plaisir, mais de remuer le couteau dans la plaie. Quand même, il y a des informations qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence, comme on l'a compris depuis l'attentat d'hier, quand il s'agit de la religion. Pour moi, le journaliste, tout d'abord, est un citoyen qui doit en quelque manière s'abstenir de donner des informations qui peuvent causer des troubles. Je crois qu'il arrive à nombre d'entre nous de, entre guillemets, de s'auto-censurer si l'on trouve que lorsqu'on publie cette information, il y aurait des conséquences négatives.
Donc vous dites, voilà, des caricaturistes qui offensent la religion doivent s'auto-censurer, ils sont allés trop loin.
Ils sont allés trop loin parce qu'il faut quand même le dire, dans la religion musulmane, il est interdit de représenter le prophète, vu que c'est quelqu'un que nous, surtout cette génération actuelle, nous ne l'avons jamais vu, on ne connaît pas à quoi ressemble son visage. Et si on le décide, c'est parce que si c'est écrit comme tel, et c'est une loi religieuse, je pense qu'il ne faut pas la violer.
Les tchatcheuses dans le studio, là, vous écoutent avec attention. Hein. Qui veut prendre la parole? Veijou,
oui,
journaliste indienne.
Je voudrais dire que je ne comprends pas cette notion d'insulte collective. Si quelqu'un dit quelque chose contre Jésus ou le prophète ou un dieu indien ou qui je sais, ce dieu ne perd pas ni sa grandeur, ni son signification pour les gens qui croient en lui. Quelle est cette notion d'insulte collective? Je ne comprends pas ça. Et pourquoi est-ce qu'on doit prendre offense si quelqu'un examine beaucoup de bêtises qui sont dites au nom de la religion? C'est le droit et le devoir, selon moi, des journalistes de parler de tous les sujets sur Terre. Et on ne peut pas avoir de limites. Il y a des cours de justice, il y a la loi. Si vous n'êtes pas contente, vous, à ce moment, apportez les choses devant les juges.
Il ne peut pas y avoir
mais
de limite.
Allez, voilà.
Enfin, sous-entendu quand même, si on ne va pas jusqu'à mettre, je veux dire, si on ne risque pas la vie des autres. On est bien d'accord.
Tout à fait. Je parle
il y a un journaliste qui met en péril
de la
vie.
Haine, voilà. Etc. Ça, c'est autre chose parce qu'il y a les lois.
Bien sûr qu'il ne met pas la vie au péril des autres, mais oui, la sienne. Ouais. C'est la preuve hier avec cette vidéo.
Alors, Asmaou, vous avez la parole, Asmaou.
Oui. Je disais qu'à mon avis, même puisqu'elle a souligné la question de justice, c'est là qu'il faut beaucoup s'appuyer. Il faut qu'il y ait la justice dans le monde entier pour que le terrorisme, en quelque sorte, pour qu'on arrive à affaiblir.
Non, mais ça, on est bien d'accord.
Le phénomène de terrorisme.
On est bien d'accord. Mais vous plaidez finalement pour une forme de journalisme de responsabilité. Cher Mohamed, par exemple, sur notre fil Facebook, rebondit aussi. Il dit, il est bien vrai que tous les musulmans se sentent consternés face à un tel crime, mais la liberté de chacun de nous s'arrête là où commence celle des autres, et la liberté de presse ne signifie pas caricaturer le prophète Mahomet. Voilà, on a beaucoup de messages de ce type.
Voilà, de toute façon, j'ai dit qu'il y a la liberté d'expression, il y a également la liberté religieuse. Moi, je suis musulmane, pratiquante, et je le dis au fond de mon cœur, ce que font les djihadistes, les terroristes au nom de l'islam ne reflètent pas la religion musulmane. Nous, musulmans, qui ne sommes pas arabes d'ailleurs, en lisant le Coran, il nous est recommandé de le traduire pour comprendre ce qui est dit. Et je ne crois pas dans une parce qu'il est dit qu'il faut ôter la vie à quelqu'un qui ne voit pas la religion de la même
C'est ça, on est bien d'accord. Néanmoins, vous, dans votre hebdomadaire satirique Le Lynx, vous vous imposez des limites, vous vous auto-censurez et vous plaidez pour cette auto-censure finalement libre.
Bon, auto-censurer, même si ce n'est pas exactement la liberté d'expression, c'est l'un des principes de la démocratie, mais il faut savoir quand même que cette démocratie s'adapte selon les sociétés et les communautés. En tant que journaliste musulman en Guinée, on accorde une importance à la religion et aux mœurs Pourquoi censurer, je ne dirais pas ça exactement, mais on trouve quand même moyen de dire ou de réaliser la vérité sans pourtant offenser ou porter préjudice.
Restez en ligne avec nous, Asmaou. Hein. Les tchatcheuses veulent réagir, bien évidemment. On est là pour discuter, Anna, oui, journaliste portugaise.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très loin qu'est-ce qu'on doit ou ne doit pas faire en journalisme. Nous avons tous un code de déontologie qui régit notre profession et qui, justement, essaye de voir quelles sont les limites. Certaines ont été parlées, ont été mentionnées ici. Quel est le comportement à avoir dans notre profession? Quelles sont les règles à observer pour l'exercer d'une façon décente, convenable, juste ou honnête, tout au plus. Mais je ne crois pas qu'on puisse... L'autocensure, je viens d'un pays qui a connu la censure toute sa vie. J'ai eu un ancêtre qui a été journaliste au 19e siècle, fondateur d'un journal, qui a été à la fin censuré et ça a commencé par l'autocensure. L'autocensure, c'est le début de la fin, je regrette. C'est le début de manque d'information.
C'est un terme qu'Asmaou n'accepte pas, ceci dit, l'autocensure. Enfin, c'est plutôt les limites.
Oui, mais il y a d'autres réactions ça revient à cela, c'est de ne pas, si on retient une information pour des raisons d'éthique, de morale, de religion, de peur, c'est de l'autocensure. Donc ça, c'est un énorme problème. Et je vais vous dire une chose, de toute façon, on a passé des siècles au moins en Occident pour faire en sorte que les religions sortent de la sphère publique pour entrer dans la sphère privée, et maintenant on est en train de vouloir que la religion revienne dans la sphère publique par tous les moyens. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'à nouveau, on va perdre des siècles de progrès, de progrès d'intelligence, de progrès de liberté d'expression. Voilà.
Veijou, vous souhaitiez rebondir également sur la presse anglo-saxonne qui a déjà ce débat sur la responsabilité de la presse.
Absolument. En effet, le Financial Times, un grand journal anglais considéré comme étant un des meilleurs journaux dans le monde, il y a eu Tony Barber qui a écrit un article en disant que quand même ils auraient pu faire preuve de bon sens entre guillemets, et effectivement il y a eu tellement de protestations des lecteurs que cet article a été rédigé par les rédacteurs en chef et les partis qui faisaient l'apologie effectivement de l'autocensure ont été enlevé de cette chose. Alors ça, c'est absolument important, et finalement le Financial Times a dû reculer de cette position de ah oui, mais on doit mesurer et tout ça. Alors jusqu'à quel point est-ce qu'on juge qui a pris offense? Vous pouvez dire quelque chose et quelqu'un d'autre doit dire « Ah oui, même je me sens offensé dans le plus profond de ma foi ou de ma religion. » Qui décide quelles sont les limites?
Même si vous vous sentez offensé, il y a d'autres moyens de manifester justement le désaccord. De manifester
porte
les faits,
plainte en justice.
Porte plainte en justice.
Et d'ailleurs, on peut obtenir
discuter,
gain de cause.
Parler et faire valoir la tolérance.
Asmaou, vous avez la parole en Guinée-Conakry, journaliste, jeune journaliste dans un hebdomadaire satirique.
Oui, je voudrais dire d'abord, quand je dis qu'il y a des limites, qu'il faut prendre des gardes, même si ce n'est pas tout à fait de l'autocensure, mais quand même il faut savoir comment donner des informations, parce que chacun de nous a son public cible, et c'est à ce public maintenant de voir et de chercher l'information que vous avez donnée, mais n'oublions pas aussi que cette information que nous donnons peut influencer en quelque manière certains lecteurs ou certains auditeurs. Voilà en quoi que je dis, il faut avoir des limites, il faut avoir des moyens, comment dire la vérité sans se sentir offensé, pour que la paix règne, pour que la tranquillité règne dans
le monde. C'est ça. Donc les limites, c'est le début de l'offense hein, pour vous, Asmaou. On a bien compris votre point de vue. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je rappelle que vous êtes une jeune journaliste, hein, 24 ans. Vous travaillez dans l'hebdomadaire satirique Le Lynx en Guinée-Conakry. Alors, est-ce qu'il faut discuter, débattre, et puis maintenant, surtout, résister en continuant à provoquer, comme l'a fait la presse indienne en montrant directement à l'image, à l'antenne, les caricatures, ou bien résister autrement, peut-être en
je
un mot,
mais joue avant qu'on rende l'antenne. Une dernière mot, c'est que notre jeune journaliste, elle travaille pour un hebdomadaire satirique. La notion d'être un journal ou un hebdomadaire satirique, c'est la dérision.
Exactement.
Et si en faisant la dérision, si en moquant des choses, qu'on commence ou on ouvre des blés le chemin pour avoir un vrai débat.
Pour rester avec nous, on se retrouve juste à Palfrache dans 3 minutes sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, tchatcheuses plus que jamais. Aujourd'hui, trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité et vous avez le droit de penser différemment d'elles. Si vous êtes une femme journaliste, vous savez que vous pouvez nous appeler, comme l'a fait tout à l'heure Asmaou, journaliste en Guinée-Conakry, au 33 1 84 22 71 71. Alors évidemment, on a passé la première partie de l'émission à réagir à l'attentat contre Charlie Hebdo qui a coûté la vie à 12 personnes hier et puis à ce qui va se passer après, à ce qui se passe dans la tête des journalistes, puisqu'on a donc trois journalistes de trois continents autour de la table. Anna Navarro-Pedro, vous aviez prévu initialement dans cette émission de nous parler d'une loi qui risque de restreindre les libertés au Japon. Ben, vous êtes pile dans l'air du temps.
Ben oui, et entre elles, surtout la liberté de la presse, car c'est une loi qui a été promulguée en décembre 2013 et qui est entrée en vigueur en décembre 2014. C'est une loi sur les secrets d'État. Et cette loi donne jusqu'à 10 ans de prison, 5 ou 10 ans de prison, à tout ce qu'on appelle en anglais whistleblower. Donc tous ceux qui font des alertes pour des sujets d'intérêt général.
Les lanceurs d'alerte.
Les lanceurs d'alerte.
Les siffleurs.
Et pas les persifleurs. Mais et donc cette loi qui vient juste entrer en vigueur, en fait, elle a déjà d'énormes effets au Japon et par exemple, elle peut affecter tout ce qui est concerne les bases militaires, mais ça on le connaît aussi, c'est effectivement dans tous les pays, c'est déjà un peu couvert sur le secret d'État. Mais là ça va beaucoup plus loin, on a la catastrophe de Fukushima, on a les conséquences de cette catastrophe nucléaire, et bien toute personne qui maintenant, tout journaliste, tout militant ou tout citoyen qui donne une information sur Fukushima et qui ne peut pas prouver par A plus B, eh bien il peut avoir jusqu'à 10 ans, il est passible jusqu'à 10 ans de prison. Pour la presse, il n'a plus d'informations et je connais des gens qui vivent à Tokyo, qui vivent au Japon et qui me disent on n'a plus aucune information. Ah oui. Tout va, c'est comme si tout allait très bien. On voit arriver en plus des tous les jours des étrangers qui viennent s'installer à Tokyo et comme ils n'ont pas d'informations, ils croient qu'il y a aucun souci à se faire. On sait que de l'autre côté de l'Atlantique, du Pacifique, en Californie, il y a des problèmes de thyroïde, de précancéreux pour les enfants de Californie qui vivent le long de la côte, qui donc sont en lien
à Fukushima,
avec Fukushima. Et on ne peut même pas enquêter au Japon là-dessus parce qu'on est passible immédiatement jusqu'avec des l'idée prisons. D'enquêter, d'être arrêté.
Donc une loi liberticide qui affecte finalement immédiatement la liberté d'être informé pour les citoyens.
Reporters sans frontières en France a dit que c'était le plus grave danger pour la liberté de la presse au monde.
Bah oui, c'est une façon de institutionnaliser l'omerta, c'est voilà.
À Paola Martinez, le Chili va peut-être retrouver son droit de grève, un vrai droit de grève. Comme beaucoup, je pensais que le droit de grève était largement autorisé au Chili.
Pas
en réalité, pas tout à fait.
Pas
oui, effectivement. Bien que ce soit une démocratie avec une présidente démocratiquement élue.
Une démocratie verrouillée encore, parce que bon, après 17 ans de dictature des Pinochet, évidemment, il a fait toutes les lois possibles pour éviter effectivement les libertés et limiter le maximum les libertés individuelles et collectives. Et donc, notamment, Michel Bachelet, depuis qu'il a accédé au pouvoir au début de cette année, et, il a décidé, il a fait son cheval de bataille d'abolir, essayer d'abolir toutes ces lois qui verrouillent effectivement la société chilienne. L'une d'elles, c'était les droits de grève. Il faut savoir qu'avant, les Chiliens ne pouvaient pas du tout se mettre en grève. Ils pouvaient, dans des cas très particuliers, avec des soucis et des problèmes spécifiques avec leur entreprise, mais ces droits collectifs qu'on connaît en France très bien, par exemple, c'était absolument banni et interdit. Donc, ces nouvelles réformes au Code du travail, justement, prévoient d'une part, que déjà les travailleurs soient pas remplacés par d'autres si jamais ils ont quelque chose à dire.
Oui, ce qui annule évidemment la grève et les effets de la grève.
Exactement, ouais. Et aussi l'effet de que tout le monde a le droit d'exprimer leur avis vis-à-vis de ce qui se passe avec leurs employés.
Ouais.
Il faut savoir qu'évidemment cette mesure, dans un pays qui est très néolibéral, malgré l'effet qu'il y a des gens de gauche dans le pouvoir, c'est vu, très mal vu d'ailleurs, hein, parce que
les gens, le patronat,
par les patronats, évidemment, donc il met un peu déjà des bâtons dans les roues pour essayer d'empêcher ça, en disant qu'effectivement les seules personnes qui vont bénéficier de ces réformes, parce qu'elle va encore passer au Parlement, c'est les syndicats, hein, parce que c'est eux toujours.
Alors évidemment, la centrale unitaire des travailleurs soutient la réforme. Hein.
Évidemment, soutient la réforme, mais tout le travailleur soutient la réforme. Et en plus, est-ce que je trouve très favorable dans cette nouvelle perspective qui s'ouvre pour les travailleurs, les travailleuses chiliennes, c'est que c'est leur droit. C'est aussi un pas vers la justice sociale. Parce qu'avant, j'insiste, j'ai vécu, j'ai travaillé un peu Chili avant de venir en France, et parfois il y avait des problèmes, il y avait peur de dire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on avait peur de perdre nos emplois. Donc, c'est effectivement le fait de réclamer quelque chose, c'était toujours synonyme, toujours un média des chômage. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça s'ouvre une perspective, 20 ans après que cette démocratie est arrivée dans le pays, de pouvoir manifester tranquillement dans la mesure des possibles.
Alors, parallèlement, il y a parallèlement à ça, hein, où ça sera peut-être une amélioration, il y a la démission de la ministre de la Santé chilienne, Elia Molina, pour ses propos sur l'avortement. Elle a dit dans une interview, les riches font avorter leurs filles dans des cliniques privées parce qu'ils en ont les moyens.
Les moyens.
Voilà, on rappelle qu'au Chili,
moi j'ai fait un long sujet sur ça, j'ai écrit un long papier pour un média français. Sur l'avortement au Chili, effectivement, donc Madame la ministre qui a démissionné, finalement, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas au Chili. Il faut savoir qu'il est passible des peines, des prisons,
5 ans,
et 5 ans des prisons, et il est interdit sous toutes ses formes l'avortement au Chili. Encore une fois, pendant la campagne présidentielle,
y compris thérapeutique.
Y compris, bon, thérapeutique, c'est encore pas tout à fait net, mais parfois les gens. C'est appliqué dans certains cas, effectivement, c'est pas du tout pénalisé, mais c'est encore les médecins, en fait, ils préfèrent ne pas les appliquer.
Ouais, on a entre 70 000 et 150 000 avortements clandestins par an.
Et donc c'est ça qui est très c'est très dangereux parce que la population, les femmes, ils sont confrontées aujourd'hui, ce n'est même pas une question morale, c'est une question de santé publique. Et aujourd'hui, encore une fois, Michel Bachelet, bon, il a essayé de présenter pendant sa campagne, essayer d'ouvrir une sorte aussi de liberté pour toutes ces femmes qui cherchent et qui souhaitent pouvoir avorter librement, avec des conditions un peu encore archaïques. Mais déjà, le débat, il est lancé. C'est-à-dire.
Mais lentement.
Lentement. Et je ne suis pas sûre, là, je suis vraiment très pessimiste et je ne suis pas sûre que sous le mandat des Bachelet, les choses soient légères.
Ça ira nettement plus vite pour le droit de grève, pensez-vous.
Ouais.
Les tchatcheuses, on dit quoi?
Je dirais qu'en Inde, on a abusé du droit d'avortement, hein, parce que il y a une espèce de déséquilibre entre le nombre d'hommes contre le nombre de femmes.
Ouais,
et dans certaines
des avortements
en
sélectifs.
Inde, on ne trouve pas de femmes pour le mariage, parce que effectivement, on est anti-femmes, souvent on tue les fœtus-filles parce que le garçon est tellement prisé. C'est exactement comme
ça veut dire
Chine.
Que vous, journaliste indienne, parfois vous en arrivez à regarder que l'avortement
Non, je regrette absolument pas. Je pense que c'est un droit tout à fait fondamental. Une femme doit avoir le contrôle de son propre corps. Mais il ne faut pas que les familles mettent la pression sur la jeune mariée que si tu es porteuse d'une fœtus fille, un fœtus féminin, tu dois absolument l'avorter. C'est ce qui se passe actuellement.
Anna,
le
Navarro
droit d'avortement
Pedro.
Au Portugal est une conquête assez récente et le débat était à peu près semblable à celui qui existe au Chili. Et c'était justement les couches les plus aisées, les riches, comme disait la ministre de la Santé chilienne, de la population qui s'y opposait le plus, alors qu'ils le pratiquaient évidemment dans les fameuses cliniques privées ou alors en Espagne à côté, où il y avait exactement la même situation. Donc ça a amené un jour une éditorialiste portugaise qui ne l'a pas regretté mais qui a beaucoup souffert par la suite, à écrire qu'en fait ces classes aisées voulaient, dans un pays où la démocratie était en chute, voulait faire en sorte que les pauvres fassent des enfants pour payer les retraites des riches. Ça a quand même porté le fer dans la plaie et ça a aidé dans le débat ensuite qui a amené à un référendum et qui a approuvé donc le droit d'avortement.
Voilà. Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise, vous ne partirez pas de l'émission sans avoir poussé un coup de gueule sur une initiative que vous trouvez révoltante. Mmh. En tout cas, c'est vrai qu'elle est bien malheureuse concernant des personnes séropositives en Chine.
Voilà. Alors, il y a des brigades de gros bras de type costaud en Chine qui sont dits dont on dit qu'ils sont séropositifs, qu'ils ont et qui sont envoyés pour effrayer les habitants d'une résidence, pour que ces personnes quittent cette résidence afin ils sont envoyés par qui ? Par un promoteur immobilier qui veut la récupérer pour bâtir quelque chose de nouveau et donc faire de l'argent là-dessus. Et il y a deux choses, il y a l'attitude qui est absolument et épouvantable, condamnable et moyenâgeuse. Et puis il y a le fait aussi comment on traite les séropositives et comment on traite le problème du sida en Chine aussi, où c'est encore un sujet largement tabou dans les campagnes.
500
surtout.
000 personnes vivent avec le VIH sida.
Voilà, un enfant dans un village de l'intérieur de Chine, il y a un enfant de 8 ans, il y a une pétition du village qui était séropositive, l'enfant, une pétition du village pour expulser l'enfant du village. Il y a quand même des dans un pays qui est en rapide croissance économique, il y a des attitudes arriérées, un manque de
d'enseignement, utiliser de des personnes séropositives pour faire fuir effectivement
utiliser ces moyenâgeux,
faire de l'argent, c'est dur à entendre. Veijun Aravan, la police de Delhi, ça vous aviez envie de nous en parler absolument, encourage maintenant, alors on va voir si ça va vraiment prendre de l'ampleur, les femmes à devenir chauffeurs de taxi en vue d'établir un service de taxi au féminin. Évidemment, on se souvient du terrible viol collectif et de l'assassinat d'une jeune étudiante en Inde dans un bus de New Delhi le soir. C'était il y a 2 ans. Il y a eu une affaire de viol dans une voiture de Uber, c'est-à-dire une compagnie de transport de personnes, pour ne pas dire une compagnie de taxi, à Delhi, c'était en décembre dernier. Okay. Alors, où est-ce qu'on en est là-dessus? Sur la sécurité des femmes à la nuit tombée, finalement.
Oui, parce que les femmes en Inde ont fait tellement de bruit. On est tellement outragé par ce qui se passe, par le fait que vraiment les femmes ne peuvent pas se bouger librement, de prendre des taxis qui sont sûrs quand elles sont seules ou quelque chose. Il y a cette vieille patriarchie qui dit toujours, ah oui, mais une femme doit être accompagnée, elle peut pas aller faire des choses seule. Donc, c'est une manière de combattre les choses, c'est-à-dire avoir des femmes qui sont entraînées pour devenir chauffeurs de taxi, à qui on donne aussi un training dans l'autodéfense, des choses comme ça, dans le judo et d'autres systèmes d'autodéfense.
Ah oui, ça va être plus que des chauffeurs.
Oui, oui, absolument. Certainement, elles vont
donc,
être prises
par... Donc chauffeur et bodyguard, c'est ça?
Oui, chauffeur et bodyguard à la fois. Et qu'elles vont peut-être faire une service. Il y a eu les premières centaines de femmes qui se sont enregistrées pour recevoir ce type d'entraînement. Et on espère avoir des femmes chauffeurs de taxi.
Mais
on en
compte
bientôt
la gravité, la situation quand même, qu'on est obligé.
Je sors du cinéma, je cherche un taxi conduit par une femme.
Mais récemment, j'ai pris le métro.
Sectarisé pour pouvoir vivre
tout
dans
à fait.
Une ville. Tout ça.
J'ai pris le métro à Delhi. La première rame de métro à Delhi est toujours réservée pour les femmes.
Que pour les femmes.
Et alors, comme c'est un train.
Mais vous pouvez choisir de monter dans les autres.
On peut, mais à ses risques et périls.
Donc vous ne prenez pas le risque, Véjou.
Voilà, moi je prends pas de risque. Et alors après, comme c'est un train couloir qui n'a pas des compartiments séparés, les rames sont pas séparées. Souvent on avait le chauffeur et le garde du train qui venait et disait aux hommes qui commençaient à entrer dans les compartiments pour dames, je arrête le train si vous repartez pas vers l'autre côté.
Et vous savez, il y a quelques temps, j'avais lu un article justement qui parlait que dans le métro de Londres, ils allaient faire la même mesure pour éviter l'harcèlement sexuel dans les rames du métro.
Alors,
à Londres,
c'est vraiment une protection à double tranchant.
C'est à double tranchant, complètement. C'est une protection à double tranchant.
La protection de la femme dans l'espace public.
Exactement, c'est ça.
Je suis d'accord. Mais quelque part, on est obligé. C'est-à-dire, moi, quand je prends le métro à Delhi, je me sens pas en sécurité en allant dans les autres wagons.
Pour ça, je dis, c'est une bonne mesure, comme ça, immédiate, mais en même temps, à long terme, ça sectarise les choses, ça sectarise
jusqu'au
la société.
Jusqu'au moment que les hommes s'éduquent. et ouais. qui se civilisent.
Exactement.
Ce sont les femmes qui les éduquent. Il faudra vraiment revenir là-dessus.
Ah, le rôle des mères de famille. Elles ont toute la responsabilité. C'est peut-être un peu lourd.
Non, c'est très lourd.
C'est quand même. Oui, mais c'est quand même. Il faut les éduquer.
Mais la justice, il faut qu'ils fassent son boulot, c'est tout.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, les tchatcheuses.
Si.
Un peu de douceur musicale dans ce monde ne peut pas faire de mal. Et juste après, rencontre bienvenue aussi avec la yéménite Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix en 2011.
I think I'm going crazy. You said to leave later. Don't know about you, but I can feel it in this room. Let's fall a little deeper. No, you're not a keeper. Don't know about you, but I can feel it through and through. Don't know about you, but I can feel it through and through. Don't know about you, don't know about you.
Paris, il y a quelques jours, elle est la première femme d'un pays arabe à avoir reçu en 2011 le prix Nobel de la paix. Tawakkol Karman a été l'une des figures du soulèvement populaire au Yémen, on s'en souvient, la même année, qui a permis de renverser le président au pouvoir, Ali Abdallah Saleh, en janvier 2012. Tawakkol Karman est aussi l'une des plus jeunes lauréates de ce prix Nobel de la paix. Elle l'a reçu à l'âge de 32 ans et Charlie Dupiau l'a rencontrée il y a quelques jours.
It was very hard. Au départ, c'était très dur. J'étais seule dans les rues, je criais, je chantais à l'adresse de mon peuple. Réveillez-vous, il faut changer le Yémen, combattre la corruption, le terrorisme. J'étais seule à l'époque. Il n'y avait que quelques hommes à mes côtés, des étudiants. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas abandonner. Oui, j'étais seule, mais un jour, les Yéménites allaient me répondre, me suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Après s'être moqués de moi au début, ils ont fini par croire en moi. Des millions de gens sont descendus dans la rue et ils m'ont accepté. Ils ont accepté les femmes comme leaders de la révolution et c'est le rôle le plus difficile que les femmes peuvent jouer. Donc oui, j'ai dû faire face à des obstacles, mais je les ai tous surmontés pour obtenir ce que je voulais en tant que femme et en tant que citoyenne.
Qu'est-ce qui a changé pour les femmes dans la contestation au Yémen qui s'est jouée en 2011?
Pendant la période transitoire après la chute du régime en 2012, qu'on a appelé la période de dialogue national, il a été décidé que 30% des postes dans le gouvernement devraient revenir à des femmes. J'ai participé à cette conférence de dialogue national. C'était un moment très important durant lequel on a rédigé une nouvelle constitution. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont été nommés par le gouvernement ou par le président n'ont pas respecté cet engagement. Ce quota de 30% de femmes dans les institutions politique. On continue donc à se battre pour cela. Mais les milices qui règnent au Yémen aujourd'hui s'opposent à cette avancée et la situation n'est plus tenable aujourd'hui.
Le dictateur du régime Ali Abdallah Saleh a été renversé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Yémen?
Ces milices sont soutenues par l'Iran et par l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Elles tentent de conquérir le pays. C'est comme une contre-révolution. Être une femme est aujourd'hui un grand défi, car les milices nous attaquent en tant que citoyens, mais aussi en tant que femmes. Ils sont connus pour leur violation des droits des femmes. Ils entendent priver les femmes de toute éducation. Ils ne veulent pas qu'elles participent à la vie politique. Ces miliciens détruisent des écoles. Nous nous opposons à eux et nous continuerons notre lutte pacifique pour reconquérir le Yémen avec nos méthodes non violentes.
Vous avez été récompensé du prix Nobel de la paix il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre action?
Beaucoup de choses. Cela m'a permis d'exister sur la scène internationale. J'ai été nommée par les Nations Unies comme membre du comité, nommée par Ban Ki-moon pour travailler sur le programme de développement pour l'après 2015. Avoir le prix Nobel de la paix, cela donne plus d'écho à ma voix et à celle de toutes les femmes de mon pays. Et puis, je l'ai reçu comme une reconnaissance très importante de la révolution pacifique yéménite, du rôle qu'ont joué les femmes et la jeunesse dans ce changement.
Vous étiez journaliste, vous êtes devenue femme politique.
I am always human rights activist.
J'ai toujours été activiste des droits de l'homme, plus que toute autre chose.
Voilà, c'était la prix Nobel de la paix 2011 yéménite, Tawakkol Karman, 32 ans. Vos réactions, les tchatcheuses?
J'ai une pensée tout émue au début de l'émission à ce qui s'est passé hier et j'ai entendu l'interview et j'ai pensé aussi à Malala en même temps.
Prix Nobel de la paix cette année.
Exactement, parce que 2014. Ça m'a fait un peu, peut-être un peu flou, mais ça m'a fait penser à ces trois personnes, enfin à ces trois éléments, des gens qui se battent pour ces droits, qui expriment leur voix avec beaucoup de courage, parce qu'il faut le dire, encore une fois, il faut jamais s'autocensurer. Il faut continuer à croire et être intègre et en détriment de sa vie. Hier,
À
Charlie Hebdo, et aussi avec des menaces, comme on l'a vécu Malala aussi, un attentat assez important.
Oui, je crois que le plus qu'on se censure et plus qu'on dit ah oui, il faut peser ses mots, il faut pas foncer, il faut avoir de la responsabilité, tout ça, on commence à ouvrir la porte à des petits dictateurs et des grands dictateurs qui vous disent qu'est-ce que vous devez penser, qui vous disent comment vous devez vous comporter, et puis on voit ce qui se passe avec l'éducation des filles, on voit ce qui se passe là où les fondamentalistes de tout genre, et je dis tout genre, dictent leurs lois.
Exact.
Moi, je conseille à tout le monde, si vous voulez bien, il y a un livre qui est d'un auteur italien qui a été traduit en français, je crois que le titre en français c'est Dizé Pereira, Dizé du verbe dire, Pereira, P-E-R-E-I-R-A. C'est un livre d'Antonio Tabucchi, écrivain décédé, et c'est sûrement justement sur la presse au Portugal sous la dictature.
Sostiene Pereira, ça s'appelle dans l'original, oui.
Ouais. Et là, évidemment, déjà, on y évoque des moments difficiles.
Le processus de la soumission, de la résignation,
qui peut devenir inconsciente
et
parfois,
qui devient là dans ce cas-là, c'est pas non. Je pense qu'il y a toujours la peur derrière quelque part.
Mais moi, en tant que journaliste pratiquant, j'ai vécu la censure parce qu'on a eu un état d'urgence en Inde entre 75 et 77 et là, les journalistes ont été mis en prison par Indira Gandhi, cette femme vénérée par beaucoup de gens, et là c'est catastrophique.
Vous revenez le mois prochain les tchatcheuses, vous êtes évidemment toujours les bienvenues dans cette émission chez 7 milliards de voisins. Merci à toutes les trois, Nana Navarro Pedro, Paola Martinez, Vaijou Naravan, tchatcheuses plus que jamais, merci d'avoir été chez 7 milliards de voisins en particulier aujourd'hui. On achève cette émission quelques minutes plus tôt afin de respecter le deuil national et la minute de silence en hommage aux 12 personnes assassinées à Charlie Hebdo hier. Pierre, merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, pour toutes vos réactions évidemment. Vous nous écrivez, hein, 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, on parlera d'éducation. Il sera question des châtiments corporels à l'école. Vous êtes au courant, ils ne sont pas interdits dans une partie de la planète.
Ils ne sont pas interdits.
Ah, ils ne sont pas interdits en Angleterre, justement, on va en discuter. Alors, comment enseigner autrement? Vos questions, vos énervements d'enseignants ou de parents d'élèves ou de lycéens ou d'élèves, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et bien évidemment, vous écrivez sur le fil Facebook. À demain, les voisins et les voisines.
Édition spéciale sur RFI. Caroline Paré.
Et merci de rester avec nous pour cette heure d'édition spéciale en ce jour de deuil national, deuil et hommage aux victimes de l'attentat perpétré il y a tout juste 24 heures contre le journal Charlie Hebdo. La rédaction, vous le savez, a été décimée, 12 morts, 11 blessés, un choc, un traumatisme et les rassemblements face aux assassins. Une attaque contre la liberté d'expression en plein Paris avec la mort de figures de la caricature, Cabu, Volinsky, Sharp, Tignous, des héros, disait hier François Hollande. La traque des deux membres du commando se poursuit. Le portrait des suspects, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, est publié par la police. Leurs traces auraient même été retrouvées ce matin. Les hommes seraient armés. Ils pourraient se trouver dans le Nord, dans l'Aisne. Situation confuse aussi dans le pays. Après la fusillade de la matinée qui s'est produite dans la banlieue sud de Paris, où une policière municipale a été tuée. Donc, situation confuse, des tirs ailleurs en France. On va y revenir pendant ces deux heures d'information. Formation continue, le choc, beaucoup de questions, alors qu'à chaque minute, la situation évolue. Émotion très intense, avec dès hier soir, 100 000 personnes. Elles se sont retrouvées à travers la France, des lumières dans la nuit, pour dire non aux barbares, défendre la liberté d'expression, pour brandir aussi ces une pas toujours tendre du journal satirique, et afficher un message solidaire. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Solidarité internationale aussi, des messages de soutien, rassemblement un petit peu partout dans le monde. En français, des réactions de la classe politique. Dans l'heure qui vient, bien sûr, on va évoquer les différents aspects de l'enquête. Également, toute cette émotion, l'analyse de nos invités qui seront avec nous en studio ou en téléphone. Nous verrons comment la presse française et internationale rend hommage à Charlie Hebdo. Nous partirons à New York, à Madrid, pour entendre comment la population, justement, a manifesté. C'était spontanément cette émotion qui reste très vive ce midi encore. Une heure, deux heures d'édition spéciale au lendemain donc de ce choc, non seulement pour la population française, mais un véritable choc international. Attentat contre la liberté de rire de tout.